Donc, ce matin, nous allons continuer notre périple dans l'épître aux Galates. Le titre de la prédication, c'est « La malédiction du péché et la rédemption de Christ ». Donc, on est dans Galates 3. Si on prend note, à partir du verset 1 de Galates 3, on est porté à l'attention sur comment Paul, l'apôtre Paul, commence le chapitre. Ensuite, il poursuit avec des arguments en termes de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont reçu. Ceci pour nous amener sur ce que nous pourrions appeler le troisième argument à partir du verset 10. Donc, Galates 3, 10 à 13, que nous lirons ce matin. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Donc, prions. Père éternel, encore une fois ce matin, nous venons devant toi, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que sans la puissance de ton esprit, Seigneur, nous ne tirerons rien de ces paroles qui seront dites, qui seront prononcées. Alors, Seigneur, nous plaidons devant toi de nous accorder ton Esprit Saint ce matin, Seigneur, ce que Jésus a appelé le Consolateur. Il viendra, il nous réconfortera. Alors, Seigneur, on te demande de nous réconforter ce matin par cette parole, de nous encourager, de nous fortifier, Seigneur, de nous aider, Seigneur, de faire en sorte que ça puisse nous aider à marcher devant toi, Seigneur, de façon à être agréable, Seigneur, en tout. Alors, nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des films qui... Comme Le jour le plus long ou Sauver le soldat Ryan, et il y en a d'autres, il y a des documentaires aussi, qui ont tenté de saisir l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre, dans son pire, le sang et les blessures et les pertes de la vie humaine, mais aussi la guerre, entre guillemets, qu'on peut dire dans son meilleur, dans le courage, dans le sacrifice de ceux qui y participent. La plupart des historiens diraient que le point le plus critique dans la Deuxième Guerre mondiale était l'invasion de la Normandie au jour D, le 6 juin 1944. C'était le plus grand débarquement de l'histoire. 12 000 avions, 150 000 troupes, 6 900 bateaux, 4 900 barges de débarquement. C'était coûteux. Initialement, c'était un désastre. En dépit de la supériorité des Alliés, des bombardements soutenus des bateaux et des avions, c'était difficile d'établir une tête de pont, d'arriver et d'établir un premier réussite. Dans les premières heures d'Omaha, qui est une plage en Normandie, plus de 2400 hommes sont morts. La première sortie des troupes à la plage de Juneau, une autre plage où il y avait un débarquement aussi, il y a eu 50% des victimes, de blessés et de morts. Pourquoi une invasion massive si grande était-elle nécessaire? Eh bien, c'était parce que l'Europe de l'Ouest en était venue à subir la tyrannie de la folie allemande. Ils avaient besoin d'être libérés. Et les semaines et les mois qui ont suivi, l'Europe serait libérée. libéré du mal du fascisme et de la dictature de Hitler. Maintenant, que penseriez-vous si peu longtemps après, quelques temps après, les Néerlandais, les Hollandais, qui étaient sous la tyrannie de Hitler et de l'Allemagne, après avoir joui de leur libération et de leur liberté, auraient commencé à retourner avec l'Allemagne et donner des indications qu'ils veulent s'identifier avec eux. Commencer à élever le drapeau allemand ou porter l'uniforme allemand, d'adopter le salut hitlérien. Que diriez-vous? Eh bien, vous diriez probablement, ils sont fous, ils sont insensés. Qui voudrait retourner avec la folie allemande et se placer sous cette sorte de tyrannie? Eh bien, quelque chose comme cela arrive lorsque nous prenons le livre des Galates et que nous les y lisons. Il retourne sous l'esclavage du légalisme, un groupe évangélique d'enseignants appelés les judaïsants, une secte de l'aile droite du légalisme, avait persuadé ou tentait de persuader les Galates. Nous ne savons pas combien, mais il apparaît qu'ils ont infiltré les églises de la Galatie en général et les avaient persuadés de se faire circoncire. L'implication était que l'œuvre de Christ plus vos œuvres était nécessaire pour être sauvé. L'implication était que l'œuvre de Christ n'était pas assez. Il devait y avoir quelque chose d'autre, quelque chose de plus. L'apôtre Paul, qui était un temps un légaliste strict lui-même, pharisien parmi les pharisiens, comme il nous est mentionné dans l'Épître aux Philippiens, qui avait été sauvé par l'Évangile et qui avait prêché l'Évangile aux Galates, est choqué, consterné. Dans Galates 1, des versets 6 à 7, vous pouvez y saisir quelque chose de son état émotionnel. Ce verset jette une ombre sur le reste de l'Épître. On y lit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Le verset 7. « Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. » Pour éviter que les Galates de retourner à cet esclavage et d'une fierté de porter le signe juif de la circoncision, l'apôtre Paul prend sa plume et écrit cette lettre aux Galates. Cette épître a été appelée l'épître de la liberté. Elle a été appelée le Magna Carta, la grande charte de la liberté spirituelle. Et comme il a été dit depuis plusieurs mois maintenant que nous voyageons dans cette épître, nous avançons dans l'Épître verset par verset. Nous en venons maintenant au chapitre 3, qui est un chapitre qui commence avec une forte confrontation. Il commence avec des mots hautement émotionnels, au verset 1. « Ô Galate insensé, qui vous a fasciné? » Ce n'est pas une lettre d'amitié sympathique. Elle est hérissée de colère, un amour difficile. Les âmes sont en cause. Ces gens sont en danger d'abandonner Dieu et son évangile. L'apôtre Paul leur adressa premièrement leur propre responsabilité et culpabilité au verset 1, où il nous dit « Ô Galates insensés ». Cependant, notez au verset 1, nous y voyons aussi quelque chose du diable. Il apparaît que le diable a ses empreintes sur cette situation par ses paroles. « Qui vous a fasciné? » Ce mot « fasciné », plusieurs croient que cela pointe aux artifices du diable et suggère qu'il y ait une sorte de force démoniaque à l'œuvre. Une bataille spirituelle prend place dans ces églises, et Paul n'est pas ignorant des manigances du diable. Il doit les amener à réfléchir, à penser, d'utiliser leur méninge. Le péché transporte toujours avec lui un certain degré d'irrationnel. Les gens arrêtent de penser, de réfléchir lorsqu'ils commencent à pécher. Et pour les amener à penser, à réfléchir, ils commencent à les plomber de questions. Au chapitre 3, commençons au verset 1. Vous avez cinq questions rapides, des questions rhétoriques, comme on avait vu. Dans les trois premières, il fait appel à l'expérience des Galates. Il veut qu'ils réfléchissent sur comment leur vie a commencé, comment ils ont reçu le Saint-Esprit, au tout début, lorsqu'ils ont cru. Et le deuxième argument qu'il utilise pour les amener à réfléchir et de revenir antérieurement, s'il en est de mettre devant eux Abraham, dans les versets 4 à 9. Abraham était une figure clé dans l'histoire de l'Ancien Testament. Il se tient sur le seuil de l'histoire de la rédemption. Et Paul utilisera Abraham comme un exemple ou une illustration qu'Abraham était un croyant par la foi seule. Avant qu'il ne soit même circoncis, il a été justifié. Maintenant, nous en venons au verset 10 et suivant. Comme il a été mentionné plus tôt, il y a trois arguments principaux dans cette apologétique contre ces judaïsants et leurs faux évangiles. Et ici, dans les versets 10 à 14, nous y avons là un autre argument mis de l'avant par l'apôtre. Il va utiliser sa Bible de l'Ancien Testament encore et commencer à citer les Écritures de l'Ancien Testament. Il ne va pas de son propre cru, mais il va à partir des Écritures de l'Ancien Testament. Il construit son apologie, non pas, comme je viens de dire, sur l'expérience des Galates. Il adresse cette avenue, certainement, mais son argument principal est construit sur la parole de Dieu, la Bible, sur les Écritures. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que l'Ancien Testament enseigne? Alors que nous poursuivons l'argument dans les versets 10 à 14, vous noterez qu'un mot est significatif. On ne l'a pas vu avant, mais ici, il ressort. Ce verset qui ressort cinq fois, deux fois dans les versets 10 et encore dans le verset 13, c'est le mot « malédiction ». On a le mot « malédiction » et « maudit ». Ça a la même connotation. Donc, prenant ce mot-clé « malédiction », nous allons considérer tout cela sous trois aspects. La terrible nature de la malédiction, la pertinence universelle de la malédiction et la délivrance exclusive de la malédiction. Donc, trois points. Premier point, la terrible nature de la malédiction. Nous voulons maintenant comprendre ce que cette malédiction signifie. Eh bien, pour nous aider à comprendre la terrible nature de la malédiction, nous allons tourner dans 1 Samuel 17. Nous y avons là une des histoires les plus palpitantes, les plus marquantes de la Bible, un récit qui continue de capturer, de saisir l'imagination des jeunes enfants. L'histoire de David et Goliath. C'est un récit de la foi, un grand récit de la foi. Un petit garçon, berger, accepte le défi de ce géant de plus de 9 pieds de hauteur et David le renverse en quelques secondes. Il arme son slingshot, en parenthèse sa fronde, et tue le géant. Mais avant que cela n'arrive, il y a un échange verbal entre le géant philistin et le jeune garçon berger. Initialement, Goliath prend le plus de place dans la conversation. Il est très volubile. Il articule son langage grossier et devinez ce qui sort de sa bouche. Malédiction au verset 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes encore contre moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux. Il a maudit ce jeune garçon berger. Il lui dit en essence, « Je veux amener sur toi le mal, quelque chose de terrible, et il en appelle même à ses dieux. » Et ses dieux avec un petit « d ». Le dictionnaire Webster définit « malédiction » comme étant un appel à Dieu ou des dieux d'envoyer le mal sur quelqu'un. Et c'est ce que Goliath fait. Il fait appel à ses dieux, pluriel, pour amener le mal sur David. Mais il est démontré que c'est un feu de boucan, n'est-ce pas? À la fin, David n'est pas maudit, mais il est béni. C'est une utilité du mot « malédiction » ou « maudit » dans un des contextes historiques. Dans Exode 21, où un fils ne doit pas maudire ses parents. Et dans Deutéronome 21, cependant, un parent est justifié en maudissant son fils insensé. Il y a une mauvaise malédiction et une bonne sorte de malédiction. Mais cela peut sembler étrange à nos oreilles, mais ce mot « malédiction » dans les Écritures est utilisé principalement par Dieu. Oui, Dieu lui-même maudit. Il y a une malédiction divine conséquente avec le caractère saint de Dieu lui-même. Tournons maintenant dans Genèse 3. Pour aligner notre base dans ce qui constitue la malédiction divine. Nous devons établir quelques lignes de base ici, et ici dans Genèse 3, nous avons le texte clé pour comprendre la malédiction divine. Donc, en ouvrant Genèse 3, il ne faut cependant pas oublier Genèse 1 et 2. Par ceci, pour dire que, et pour signifier que ces passages sont pleins de bénédictions. Les passages de Genèse 1 et 2 sont remplis de bénédictions. Donc, en ouvrant Genèse 3, ne pas oublier Genèse 1 et 2. Dieu aime bénir. Dieu a béni nos premiers parents dans Genèse 1, 27. Il dit, « Dieu créa l'homme à son image. » Et il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et au verset 28, Dieu les bénit. Il ne les a pas maudits. Nous ne trouvons pas de malédiction sur Adam dans Genèse 1 et 2. Mais dans Genèse 3, c'est une histoire différente. Ici, dans le contexte de péché, de rébellion, de désobéissance, nous lisons et voyons Dieu maudire au verset 14. Dieu amène sa première malédiction sur le diable, sur le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Ève aussi a expérimenté la malédiction de Dieu sur l'élevage des enfants et dans l'accouchement, ce qui entraînait beaucoup de douleurs et de misères. Le verset 16, il est dit, « Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. » Cette malédiction est aussi portée vers Adam et son emplacement sur le sol sur lequel il se tenait. Il a écouté la voix de sa femme, donc au verset 17 et 18, « Et en raison du péché d'Adam, nous vivons dans un monde déchu, un monde qui est maudit. » Le verset 19 est une partie de la malédiction. Il nous est dit « car tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Donc, Genèse 3 est la clé pour comprendre la malédiction de Dieu. Nous y voyons la colère de Dieu, la colère, le courroux de Dieu, l'indignation, la punition de Dieu. Cela amène sur l'homme une myriade de malheurs et de misères. Et si vous continuez à lire dans la Révélation biblique, vous allez trouver l'homme sous la malédiction pratiquement à chaque tournant. Il est sous la colère, le courroux, le jugement de Dieu. Pour citer par exemple dans le Genèse 4, le récit de Caïn, il a tué son frère Abel, et qu'est-ce que Dieu fait au verset 11? « Maintenant, tu seras maudit loin du sol. » Dans Genèse 6 et 7, avec l'arrière-plan du péché, de la rébellion, Dieu maudit cette fois toute la race humaine par le déluge, la malédiction du jugement de la mort et de la mort. Dans Genèse 19, ici nous avons deux cités, Sodome et Gomorre, et cette fois, c'est sur les gens vivant dans cette cité. Si vous avancez dans le livre de Genèse, d'Exode, de Deutéronome, vous y verrez malheur sur malheur, horreur sur horreur, et toujours sous l'ombre de la mort à cause de la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu n'est pas une simple menace comme la menace de Goliath, quand Goliath a menacé David. Elle a des dents. Elle a des griffes, elle détruit. Comme il a été dit, le mot « malédiction » est probablement le mot le plus effrayant dans notre Bible. C'est comme regarder dans la face d'un Dieu en colère. Et je me rappelle, il y a un petit livret de Jonathan Edwards qui dit « C'est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu en colère ». Il y a même une référence, je pense, dans Hébreux 3. Donc, Paul prend ce mot « malédiction » dans Galates 3. Il n'a pas oublié sa Bible de l'Ancien Testament. Il n'a pas oublié cette affreuse, cette épouvantable histoire derrière ce mot « malédiction » dans Galates 3, 10. Il cite un texte de l'Ancien Testament, tiré de Deutéronome 27, Deutéronome chapitre 27, verset 26. Parce que c'est là que cette citation vient. C'est le contexte de Deutéronome 27, 26, dont Paul cite dans Galates 3, 10. C'est le contexte où la nation d'Israël se tient sur le seuil d'entrer dans la terre promise. Vous avez 6 tribus se tenant sur le mont Ébal. Vous avez 6 tribus se tenant sur le mont Garazim. Et vous avez Dieu parlant à Moïse, donnant un message à chacune de ces 6 tribus. Et si vous lisez à partir du verset 15 et suivant, vous entendez Dieu apporter ses avertissements et ses malédictions. Au chapitre 28, il prononce ses bénédictions. Quel est le point? Il leur dit au tout début, vous êtes sur le point d'entrer dans la terre promise, dans le pays promis dans Canaan. Et il y a deux options. Vous vivez une vie d'obéissance, et si vous le faites, vous serez béni. Et si vous vivez une vie de désobéissance, vous serez maudit. Si vous écoutez aux malédictions spécifiques de Deutéronome 27, ils font tous référence à l'issue de la moralité de la loi de Dieu, les hauts standards saints de justice. Par exemple, de Deutéronome 27, verset 15, il nous est dit « Maudit soit l'homme qui fait une statue » ou une image en métal fondu, ce qui est une violation du deuxième commandement. Le verset 16, « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » C'est facile de trouver la référence dans la loi. C'est le cinquième commandement. Les versets 18 et 19 est une violation du neuvième commandement. Le verset 17 est une violation du huitième commandement. Maudit soit celui qui déplace la borne de son prochain. Ce serait volé. Les versets 21 à 23, vous avez des perversions sexuelles particulières qui étaient rampantes parmi les Cananéens, et les Hittites, ces groupes de gens qu'ils rencontreront lorsqu'ils entreront dans la terre promise. Le verset 24 était une violation du sixième commandement. Ensuite, vous avez le verset 26, qui est le texte que Paul a cité dans Galates 3:10. Il semble que ce soit le texte qui résume, qui dit que si vous brisez ces lois ou violez ces lois, eh bien la malédiction de Dieu sera sur vous. Si vous ne vous conformez pas à la sainte loi de Dieu, vous serez maudit. Paul, sans doute, en tant que pharisien, un juif lui-même, a mémorisé ses malédictions. Paul avait aussi ses malédictions qui lui revenaient à ses oreilles certainement. Et apparemment, lorsque quelqu'un était châtié dans ce temps-là, quiconque était châtié par les Juifs, et on sait que Paul l'a été à tout le moins 5 fois, ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens 12, selon les manuels de la synagogue de ce jour, de ce temps, les malédictions de Deutéronome 27 auraient été décriées à ses oreilles. Ça veut dire que, probablement, quand il châtiait quelqu'un, il lui lançait ses malédictions aux oreilles. Il lui décriait ça constamment. Donc, Paul, aux yeux des Juifs, était un homme maudit. Donc, c'était concernant la malédiction, la base de la malédiction. Le deuxième point, c'est la pertinence universelle de la malédiction. Nous avons tous tendance, n'est-ce pas, de penser que des gens comme Caïn, peut-être, ceux qui vivaient à Sodome ou à Gomorre, ceux qui ont souffert de ce terrible jugement de ces pierres, on se rappellera dans Josué, tombé du ciel, et nous pouvons nous asseoir et dire que c'est tout à fait comprenable. À quoi pouvaient-ils s'attendre, eux? C'était tout à fait comprenable qu'ils reçoivent la malédiction, eux autres. Nous pouvons voir dans les prisons à sécurité maximum en Amérique ces gens avec toutes sortes d'arrière-plans meurtriers et dire ils ont ce qu'ils méritent. Lorsque nous pensons à l'Holocauste, au génocide, lorsque nous pensons à Hitler, à Staline, nous comprenons pourquoi les gens comme cela sont amenés sous le jugement de Dieu. C'est facile pour nous de penser, c'est quasiment automatique, bon, mais ces gens-là méritent ce qu'ils ont eu, alors ils sont sous le jugement de Dieu. Mais quand Paul utilise le mot malédiction dans Galates 3, il ne marche pas dans les districts malfamés de Montréal, de Toronto, de Vancouver ou de toute autre ville du monde. Il ne visite pas une prison à sécurité maximum. Il ne vise pas les gens les plus durs dans ce monde. Rappelez-vous à qui s'adresse cette lettre, à qui cette lettre a été écrite. Cette lettre a été écrite, s'adresse à des gens qui étaient plutôt religieux. Certainement les Galates, mais aussi les judaïsants qui plaidaient pour un salut par les œuvres. Galates 3:10, tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi, et c'est là qu'est l'issue en quelque sorte, sont sous la malédiction. Qui avait-il en vue ici? Certainement aux judaïsants, aux pharisiens, ou quiconque autre qui pense aussi qu'ils seront sauvés par ce qu'ils feront par leurs œuvres. Des gens bien. Et il y a beaucoup de gens bien dans ce monde qui sont assis actuellement dans les bancs d'église, dans les synagogues juives, dans les temples hindous ou tout autre temple qu'il peut y avoir. Personne n'a tué son frère comme Caïn. Ils ne sont pas engloutis dans la violence comme ceux de Genèse 5. Mais Paul apporte la malédiction divine sur tous ceux-là. Notons ici le langage. Paul veut que chacun sache que la loi de Dieu a une application à toute votre vie. La loi de Dieu scrute, analyse tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez. La sainte loi de Dieu a une application étendue et intensive à votre vie. Vous vous rappelez les pharisiens? Ils disaient qu'ils aimaient la loi de Dieu. Ils pensaient qu'ils l'aimaient, mais ils l'extériorisaient seulement. Ils l'auraient appliquée à Caïn ou aux homosexuels ou aux violeurs. Ils ne se plaçaient pas eux-mêmes en termes de péché du cœur. Ils ne voyaient pas que les péchés qu'ils avaient étaient dans le cœur principalement. L'orgueil, les péchés de la langue, le commérage. Il se voyait plutôt positif. Et il y a beaucoup de gens dans notre monde qui pensent ainsi. Je suis une bonne personne. Je traite bien ma femme. Je suis un bon père. Je suis une bonne femme. Je suis soumise à mon mari. Je suis un bon travaillant consciencieux. Je fais de mon mieux. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que votre meilleur est comme un vêtement pollué devant un Dieu saint. Et j'avais la note d'Ésaïe 64. Certainement qu'on la connaît tous par cœur, mais je vais la lire au cas où on ne s'en rappellerait pas. Verset 64, verset 5. Nous sommes tous devenus comme un objet impur, et tous nos actes de justice sont comme un vêtement pollué. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Que la loi de Dieu est comme un rayon X, un scanner. Elle voit tout dans notre cœur. Elle voit tout l'intérieur, chaque pensée secrète, chaque affection, chaque motif. Et qu'est-ce que la loi de Dieu demande envers cela? Qu'est-ce que la loi de Dieu nous demande? Elle demande que nous soyons parfaits à l'égard de toutes ces choses. Elle demande la perfection. C'est quelque chose. On devrait écrire ce gros mot-là, l'avoir ici en avant. Vous devez être un père parfait, une femme parfaite, un fils parfait, si vous voulez garder la loi de Dieu, de la façon que Dieu demande de la garder. N'avez-vous jamais étiré la vérité? N'avez-vous jamais eu de la convoitise dans votre cœur? N'avez-vous jamais parlé de manière peu aimable, méchante? Ne vous êtes-vous jamais apitoyé sur vous? N'avez-vous jamais été en colère? N'avez-vous jamais violé la sainte loi de Dieu à quelque point que ce soit, dans quelque temps que ce soit, dans quelque moment que ce soit dans votre vie? Et si vous l'avez fait, vous êtes sous la malédiction de Dieu. Ces malédictions de Galates 3 s'étendent à toute personne de tout temps et à toute chose. Paul, ici, ne laisse aucune échappatoire. Il ne permet pas à aucun de nous d'avoir un soupir de soulagement. Il ne permet pas à aucun d'entre nous de penser qu'il ne parle pas à nous ou qu'il parle à notre voisin. Non, il nous parle à nous tous qui sommes visés par Galates 3:10. Parce que nous avons tous brisé la loi de Dieu. On a tous violé la loi de Dieu. Vous voyez, le plus grand problème que nous faisons face aujourd'hui est que les gens ne se voient pas eux-mêmes comme Dieu les voit. Vous entendez rarement quelqu'un crier « Je ne l'ai pas fait. Ô Dieu, sois apaisé envers moi, un pécheur, ou le pécheur plutôt. » Nous entendons plutôt dire « Je ne suis pas un pécheur, je suis une victime. » Un certain écrivain anglais, Tesquerton, qui s'appelle, il posait la question « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? » Et comment répond-il à la question? Il dit « Je suis ce qui ne va pas dans le monde. » Le problème, c'est moi, c'est mon péché. Il n'y a rien de plus facile à prouver que l'homme est un pécheur selon notre Bible. Nous pourrions apporter des centaines de versets pour démontrer que je suis un pécheur. Romains 3, 10. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Psaume 51 nous démontre que dès le sein de notre mère, nous sommes des pécheurs. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Incurable. C'est quelque chose d'être incurable. Indétachable. C'est impossible de le détacher. La méchanceté est dedans. Qui peut le connaître? Isaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. C'est quelque chose, hein? Il pointe l'égoïsme du péché. C'est le maître tueur, pouvons-nous dire, aujourd'hui dans le mariage. Je veux vous amener un autre témoin contre vous, votre propre conscience. Non seulement la Bible, l'objet de la révélation externe, mais votre propre conscience. Romains 2, 14, 15, nous y lisons « Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement, ils les accusent ou les défendent tour à tour. » La conscience est comme un policier. Il siffle, il donne des tickets, il vous amène en cour. Chacun de nous a entendu le sifflet du policier, reçu la contravention, savons qu'il y a un jugement, un jour de jugement. Vous voyez, si la vérité est connue, vous et moi, et des millions de manières, dans des millions d'endroits différents, dans différents temps, dans notre vie, avons commis des péchés. Nous sommes des briseurs de la loi. Nous ne sommes pas des gardiens de la loi. Et rappelons-nous que la loi demande la perfection. Le 9e commandement, des paroles parfaites. Le 10e, le dixième commandement, des pensées parfaites. Le 5e commandement, une soumission parfaite. Le 7e commandement, un mariage parfait en ce qui regarde la pureté sexuelle. Demande que vous aimiez, estimiez, honoriez à chaque instant de votre vie. La loi de Dieu demande l'amour parfait envers votre voisin et de Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez garder cette loi? L'avez-vous fait? Non, aucun de nous l'a fait. Et aucun de nous ne le fait. La malédiction sur chacun qui ne fait pas tout ce qui est contenu dans la loi. Le mot malédiction est à propos pour vous, pour moi. Il a une pertinence universelle. parce que nous sommes tous des briseurs de la loi. Et notre dernier point, la délivrance est exclusive de la malédiction. Au verset 11, Paul nous dit qu'il y a un moyen pour la justification, un moyen dans lequel vous pouvez voir et savoir que vous avez le sourire de Dieu. Le juste vivra par la foi. Il place cela dans le contexte de contraste, d'antithèse, comme nous le voyons dans cet épître plusieurs fois. Il nous démontre que ces deux choses sont opposées. Les œuvres de la loi, si vous pensez que vous pouvez vous justifier par elles, et la foi. Paul utilise ce mot « foi » comme il l'a utilisé déjà plusieurs fois. Il ne peut penser qu'à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est l'objet exclusif de votre foi. C'est lui qui est l'auteur de notre foi, comme il nous est dit dans Hébreux. Paul a placardé Christ devant ses Galates, mentionné au verset 1. Mais maintenant, il le fait encore devant eux au verset 13. Un texte plus étonnant, un des textes les plus étonnants de toute la Bible. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est tout un choc. Lorsque vous pensez que ce mot « malédiction », ce qu'il implique, ce qu'il entraîne, il implique la colère divine, le jugement divin, l'enfer même. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment l'a-t-il fait? Eh bien, ce mot « racheter », un mot important qui signifie « payer un prix pour rendre quelqu'un libre ». Payer un prix pour sortir quelqu'un de sa prison. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Notez, étant devenu malédiction pour nous. C'est à se demander si Paul, lorsqu'il écrit Galates 3:13, ne pensait pas à Ésaïe 53, où il est mentionné « Christ a été frappé, humilié, transpercé, écrasé. Il est devenu malédiction pour nous. » Un vieux rabbin, une citation d'un vieux rabbin, qui dit « La damnation ne peut être annulée, abrogée. Dieu ne peut pas simplement la rejeter. Oublions-la. Non, il a promis la malédiction sur le pécheur. Il doit être consistant avec ce qu'il est. Il ne peut se renier lui-même. Donc, comment permet-il au pécheur d'échapper? Il a maudit son fils. Donc, il a mis sur son fils la malédiction que nous méritions. Il a placé la marque de Caïn sur Christ. Il voit Jésus comme un sodomite, un gomorien. Il a tiré à bout portant sur Jésus. Il a été condamné à ma place. Nous avons parlé concernant le coût pour la libération de l'Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était des chiffres astronomiques, des milliards de dollars, des millions de vies. Qui sait combien de membres, de reins, de jambes, de bras, d'yeux, d'oreilles ont été perdus? Il y a eu un coût astronomique. Et le mot est faible, certainement. Mais lorsque l'on en vient à rendre libres des pécheurs, ce n'est pas seulement astronomique. Déjà, le mot astronomique, c'est des chiffres qu'on n'est même pas capable de lire, comme, mettons, 1294 et 23. Astronomique, c'est long comme la rue, puis encore. Mais c'est infini. Alors, infini, c'est infiniment plus grand qu'astronomique. Ça n'a pas de bout. Mais vous dites une seule personne. Mais savez-vous qui est cette personne? Il est non moins que le Dieu créateur infini, parfait, qui s'est incarné. Il a dû quitter sa gloire du ciel, cet endroit parfait, et de venir dans ce monde déchu, dans ce monde maudit, qui avait reçu la malédiction de Dieu dès Genèse 3. Nous pouvons citer cela comme une invasion secrète. Aucun avion, aucun parachutage de troupes sur le territoire ennemi, aucun char d'assaut, aucune bombe, aucun tir ennemi. Nous le trouvons dans une mangeoire. Êtes-vous sérieux? Ce bébé va sauver le monde? Oh oui! Vous l'appellerez Jésus. Et c'est la salutation de l'ange, il fait partie de la salutation de l'ange à Marie, où il dit même comment on l'appellerait, et que cet enfant sauvera le monde de ses péchés, son peuple de ses péchés. Et nous apprenons très vite ce qu'il en coûtera du rejet qui se reflète par le fait qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. La vie de Marie et de Joseph est contrecarrée, est perturbée. Des milliers de bébés sont massacrés alors que Hérode est déchaîné dans un élan de meurtre pour enrayer le roi Jésus. Quel coup! Allons dans le jardin de Gethsémané. Vous le voyez suer des grumeaux de sang. Et il réalise comme jamais ce qui lui en coûtera. Ensuite, nous nous rendons à cet endroit, Golgotha, le rejet humain. Ses meilleurs amis vont le déserter. Tout lui sera enlevé. Il est nu sur cette croix. Tout son confort lui est enlevé. Sa vie lui sera enlevée. Violemment, cruellement par la crucifixion. Mais il y a plus dans le coup. Il y a quelque chose de plus encore que cela. Il va perdre Dieu, séparé de Dieu lui-même. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné par Dieu lui-même. C'est le coût, le prix à payer. Il a souffert l'enfer, la damnation, la malédiction pour nous libérer, pour nous racheter. Il sera un « undated ». Là, j'ai marqué le mot anglais parce que je n'ai pas été capable de le traduire. Souvent, je l'entends souvent, là, un « undated ». Ça veut dire qu'il c'est un « nobody », en fait, en quelque sorte. De la colère de Dieu. Vous avez été rachetés par la malédiction. La croix accomplit la libération des pécheurs. Sa croix a fait plus que toutes les bombes, tous les armements, tous les avions des guerres qui ont précédé. Par son sang versé, par sa mort, les pécheurs sont libres, sont rachetés. Vous voyez pourquoi vous devez croire en lui. Il est le seul sauveur du monde, le seul sauveur. Il est le seul qui a gardé la loi de Dieu parfaitement. Il est le seul qui pouvait payer le prix infini, qui est plus qu'astronomique. Il est infini, le prix. Il est le seul qui pouvait porter la malédiction à notre place, pour nous. Pécheurs, ne quittez pas, étant encore sous la malédiction. Ne quittez pas, rejetant Jésus-Christ. Certains vont entendre ces mots au jour du jugement. Éloignez-vous de moi, vous êtes une malédiction. La seule façon pour vous de ne pas entendre ces mots est si vous mettez votre confiance en Christ. Regardez à celui est le seul qui est devenu péché, malédiction par Dieu lui-même. Croyez en lui et vous serez sauvés. Amen. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, notre Dieu, ce matin. Nous te remercions pour ta grande bonté envers nous. Nous te remercions, Seigneur, pour le calvaire que tu as enduré, Seigneur, pour tout ce que tu as enduré et qui est hors de notre portée, de notre compréhension, Seigneur. On le comprend, mais de façon très minime, Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce salut qui est venu vers nous, parce qu'on était incapable d'aller vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur, qui est infini. Loué sois-tu, Seigneur, de toute éternité. Dans le nom de Jésus. Amen.